féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, Le Monde au Féminin. Nathalie Barge, pour vous servir, avec moi dans le studio, Nani Talani, juriste, linguiste et journaliste née au Congo, Brazzaville. Merci beaucoup, Nani, d'être avec nous.
Merci de m'avoir invitée, Nathalie.
Alors, vous avez travaillé pour plusieurs médias congolais et internationaux. Vous avez notamment formé des journalistes de radio communautaire dans le cadre d'un programme de l'Union européenne. Vous avez aussi donné des formations en droits humains et en genre pour l'USAID. Vous êtes activiste de l'environnement. Vous avez produit Environnement Zéro, émission hebdomadaire sur la protection des écosystèmes. Elle existe encore ?
Non, elle n'existe pas parce que je la produisais à Brazzaville, mais je ne vis plus au Congo.
D'accord. Alors, vous avez également enseigné le droit. Vous êtes conseillère juridique et formatrice en droits humains auprès de l'Association des femmes juristes du Congo. Vous êtes une hyperactive de la vie communautaire. Vous adhérez à diverses ONG au Congo et aux États-Unis et vous avez été bénéficiaire de la bourse américaine Fulbright Humphrey Fellow. On a aussi la chance de vous avoir ici avec nous à la Voix d'Amérique. Vous travaillez avec nous, Nanit. Et vous êtes aussi l'auteur de Cœur ensanglanté, votre premier ouvrage publié en 2016 aux éditions Edilivre. On va offrir une petite page culturelle justement grâce à ce recueil de poèmes que j'ai lu tout récemment et qui m'a beaucoup touchée, qui m'a incité à vouloir en savoir plus hein, sur la poétesse cachée en vous. C'est une écriture vraiment très dépouillée, c'est de la poésie moderne. J'aime beaucoup, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tristesse, il y a une grande tristesse, une profonde tristesse. Il y a un peu de violence, mais une violence docile. Et il y a de l'espoir aussi. Dans toute cette tristesse, il y a un brin d'espoir. Des poèmes très très sombres, mais à la fin, ou à un moment donné, il y a toujours une petite lueur d'espoir. Vous parlez de l'Afrique, vous parlez de votre pays, vous parlez de la guerre, vous parlez du Congo-Brazzaville, vous parlez des femmes, des enfants, de la souffrance, la misère, le genre, l'immigration, et vous êtes une véritable humaniste à n'en pas douter. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire, Nanit, et surtout ce titre « Cœur ensanglanté ».
En fait, je suis très observatrice et aussi j'aime prendre l'action. Donc s'il y a quelque chose que je peux faire pour soulager les souffrances de quelqu'un, pour venir en aide à quelqu'un, je ne me retiens pas. Et donc j'observe beaucoup parce que je me dis que le monde entier est en train de souffrir. Le monde entier est un cœur qui souffre, est un cœur qui est ensanglanté. Alors il faut faire quelque chose. Moi, à mon niveau, tout ce que je pouvais faire, peut-être pour alerter le monde entier sur les maux qui sont en train de miner de plus en plus la vie quotidienne des humains, c'était donc d'écrire un livre pour donner l'alerte, pour que les gens puissent savoir ce qui se passe, notamment en Afrique, plus particulièrement au Congo, parce que des fois, il y a des réalités que les gens ne saisissent pas. Alors, je me suis dit que si j'écrivais un livre, peut-être que 2-3 personnes pouvaient savoir ce qui arrivait au
Congo. C'est très modeste. Le nom que vous avez choisi pour publier ce livre fut très Latouaterli. Expliquez-nous ça. C'est pas le nom que je connais, moi.
Mais non, en fait, c'est pas mon nom. Ici, il s'agit des trois noms de mes amis, c'est des Américains. Quand je suis arrivée aux États-Unis, ce sont des gens qui m'ont accueillie comme étant des membres de leur famille. Donc, j'ai retrouvé en eux, en ces personnes, donc, une mère, une sœur, un frère. Et quand j'ai voulu publier ce livre, je me suis dit, j'aimerais faire quelque chose qui ferait que je n'oublierai jamais ces personnes. Alors, ça serait quoi? J'ai dit, je vais prendre un nom de chacune de ces personnes pour en constituer mon nom d'auteur pour ce premier livre. Et c'est ce que j'ai fait. C'était une façon de leur dire merci, de leur dire que moi, que j'étais touchée par la façon dont ils m'accueillaient.
C'est dans la presse.
Le 29 octobre 2018, l'on apprenait la mort en Turquie de Mariama Keïta, la première femme journaliste du Niger. Née en 1946 à Niamey, Mariama Keïta a été directrice de La Voix du Sahel, radio publique, où elle avait débuté comme rédactrice et présentatrice du journal. Elle a été présidente du Conseil supérieur de la communication de 2003 à 2006. La doyenne de la presse nigérienne était une figure de la société civile et avait dirigé la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes, puis l'Association pour la démocratie, la liberté et le développement. Elle avait participé à la vulgarisation de la Constitution qui avait permis la tenue des premières élections démocratiques en 1993. Mariama Keïta, un nom à retenir. L'Éthiopie n'a de cesse de surprendre dans sa course folle à la parité, hein, comme nous le savons, avec la désignation d'une femme le 1er novembre 2018, Maza Achenafi, à la tête de la Cour suprême, faisant suite à la désignation de Salehwork Zewde en tant que présidente du pays et la création d'un gouvernement 100% paritaire. Militante des droits humains, éminente avocate, Maza Achenafi a marqué les esprits en 1996 lorsqu'elle a défendu une fille de 14 ans qui avait tué son violeur, qu'il avait enlevé pour la marier de force. En 2004, elle a contribué à l'interdiction de ces enlèvements traditionnels appelés Telefa. Et avec ses consoeurs, elle a fondé l'association éthiopienne des femmes juristes, un peu comme vous, et a contribué à la création de la première banque pour les femmes en Éthiopie. Et en 2005, elle a été nominée pour le prix Nobel de la paix pour son combat pour les droits de la femme et l'égalité des genres. Nani Talani, je voudrais absolument qu'on puisse lire certains passages de vos poèmes qui parlent de l'Afrique et notamment des enfants de la rue, des orphelins de guerre, ces enfants défavorisés. Qui sont ces enfants?
Déjà, ce poème-là, je l'ai écrit en 2000. Le Congo venait de connaître, je pense, sa deuxième guerre civile. Et quand on est sorti de là, il y a beaucoup de parents qui étaient morts, beaucoup de enfants se sont retrouvés dans la rue. Et ces enfants étaient tout seuls. Et c'est très touchant, c'est très triste de voir des enfants vivre seuls parce qu'ils sont à la merci de tout le monde. Ils ne peuvent pas se défendre. Et ces enfants ne sont pas assez matures pour avoir le discernement et savoir quelles décisions prendre dans la vie. Et donc, ce sont des enfants qui ont un avenir sombre. Ouais, et ça m'avait tellement touchée que je me suis dit qu'il fallait que j'écrive quelque chose sur ces enfants-là. Et puis, j'avais remarqué qu'après la guerre, les gens étaient devenus moins humains, moins sensibles à la douleur et à la souffrance des autres. Et même dans des familles, c'était comme ça.
On va se livrer un petit exercice de lecture de poésie, Nanit. Okay. On va intercaler, vous et moi, au pilori, au banc de la société. Je suis mis presque. Elles ne peuvent plaider ma cause, mais pauvre frusque, surtout quand on m'offusque. Comment exiger des regards, moi, à qui on ose jeter un seul regard? D'où les gens tiennent-ils cette mauvaise forme de sévérité, condamnant sadiquement leurs semblables dans l'austérité, faisant croire que le bras de la générosité est devenu trop court, réduisant et effritant mon espérance d'un secours?
Oui, au milieu de quels gens évoluerais-je vraiment? Ceux dont les mains sont souillées par le sang innocent, dont l'insensibilité s'est implantée dans les cœurs et les consciences non éduquées?
Avec quel individu vais-je croître? Ceux dont le vandalisme gonfle comme le goitre? Parmi quelles personnes vais-je grandir? Celles qui sont devenues amères, plongées dans les idées et les actes vindicatifs, ne vivant que dans les souvenirs d'un passé non rétroactif, sans rêve au présent ni l'espoir de bons bains, craignant les lendemains, dans quel sein familial puiser mon affection et déverser mon amour filial? Ma famille a été saccagée, piétinée.
La compassion et la charité ayant débarrassé le plancher, comment échapperais-je sans flancher à mon sombre avenir qui ne fait que s'approcher? Oh, bonhomie, pourquoi es-tu sourde à mes plaintes?
Ça vous fait quel effet de lire vos poèmes?
Ça me fait le même effet parce que aujourd'hui, les enfants qui souffrent, il y en existe peut-être même de plus en plus. Mmh. On entend parler des enfants, par exemple, en RDC, vous voyez là où il y a la guerre.
Oui, c'est partout.
Les parents sont en train de mourir. Au Yémen, on a vu des photos vraiment très, très tristes des enfants qui meurent là-bas de faim. Et donc, de plus en plus d'enfants sont en train de souffrir. Donc, pour moi, ça fait le même effet. Ça, la réalité n'a pas changé. Au contraire, elle fait que s'empirer.
Parole de femme.
Au Burkina Faso, le centre d'apprentissage CEFIAM à Ouagadougou balaie les préjugés en mettant sur le marché de l'emploi des jeunes femmes formées aux métiers dits masculins comme la mécanique ou la soudure. Notre correspondant Issana Pons s'est rendu dans les sections de roues, électricité, automobile, électronique et carrosserie pour tendre son micro aux apprenantes. Il a d'abord donné la parole à Bernard Zongo, promoteur du centre, qui note un changement progressif des mentalités.
En 1996, lorsqu'il s'agissait de recruter 10 filles au début, nous avons été obligés d'aller de porte en porte pour pouvoir trouver au bout du compte 8 filles pour démarrer la formation. Mais 20 ans après, on a plus de 300 filles en formation de façon permanente. En termes de bilan, nous avons globalement un taux d'insertion de 78%.
Des chiffres qui incitent les apprenantes à redoubler d'ardeur à l'image de Pauline Nikiema dans la section tôlerie carrosserie.
J'ai appris à redresser et la tôlerie et puis la peinture. Ici nous avons à peu près tous les matériaux pour travailler. Mais dans les garages, ça c'est autre chose. Parce que étant femme, d'autres disent qu'elles n'ont pas la capacité de faire comme les hommes. Et pourtant.
Si nombre d'anciennes du centre sont embauchées dans certaines entreprises de la place, d'autres ont préféré s'installer avec beaucoup de réussite à leur propre compte grâce à l'accompagnement financier de CEFIAM. Le témoignage de Pauline Yamio.
Au début, les gens se bousculaient pour venir voir. Et c'est la première fois. Je repars vélo, moto. Pour le moment, ça va. Depuis, ça s'y fait mes clients. Je ne me plains pas.
Le cas de sa collègue diplômée en électronique et électricité est tout aussi frappant. Il a fallu passer par des subterfuges pour pouvoir s'imposer en réparation et installation d'appareils électriques et électroniques, se souvient Mariam Dao.
Il venait pas. Puis mon mari m'a conseillé, comme j'ai fait mon stage 3 mois à Canal, là, si je peux aller le voir. Maintenant, celui qui vient faire un abonnement, je lui donne une carte de visite. Puis je l'explique ce que j'ai fait. S'il a un problème chez lui, il est obligé de venir où il fait son abonnement, chercher un technicien ou même un réparateur, aller le dépanner chez lui à la maison. De bouche à oreille, comme ça, je commence.
Ce sont environ 450 jeunes femmes que le promoteur aura réussi à former en 20 ans d'existence au métier dit masculin. Issana Pons, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec Nani Talani comme invitée qui a écrit le recueil de poèmes Cœur ensanglanté. Un recueil qui parle de l'Afrique et qui parle de la jeunesse sans emploi. Cette jeunesse qui part, comme on le sait, à l'aventure. Et donc, vous avez été très touchée par ce problème et vous avez écrit des poèmes sur l'immigration. J'ai un passage sous les yeux que j'aimerais bien citer aussi. C'est l'exil, en fait, c'est ça. C'est le poème qui s'appelle l'exil.
Les vrais diplômes jouent le rôle d'ornement. Les salaires des vrais travailleurs tombent épisodiquement. La pension des retraités est un point d'eau dans le désert. La perspective d'être employé ne flotte pas dans l'air. Beaucoup ont arrêté d'aller en classe. Le désœuvrement au bout des études les lasse.
On peut lire un autre passage qui dit « Je ne supporte plus les injustices, les voix n'ont plus d'interstices, que d'existence sont en péril, les prairies ont perdu de leur verdure, débusquer un pré est dur, il m'expédie insidieusement en exil, mes yeux sont fatigués de voir leur massacre, mon nez ne supporte plus l'odeur ocre des cadavres tués par les ogres, mes oreilles en ont assez du bourdonnement de leur vide message, leurs vaines paroles me poursuivent en songe. » C'est tellement réaliste, c'est tellement actuel.
Oui, parce que tu vois, depuis Brazza, je voyais des gens qui ne voulaient pas vraiment partir à l'aventure, parce que surtout au Congo, les gens n'aiment pas aller souffrir ailleurs. Mais des fois, ils n'ont pas le choix. Ils prennent le chemin de l'exil comme tout le monde. Donc, c'est malgré eux. C'est pourquoi j'ai dit, ils m'expédient insidieusement en exil. Mm-hmm. Ce sont les gouvernements qui envoient les jeunes en exil.
Ouais. On a
c'est
bien
pas
compris.
Eux-mêmes, oui.
On a bien compris. C'est ça que j'aime beaucoup dans vos poèmes. C'est très peu de mots, mais qui en disent très, très long. La ville loquée. J'adore ce titre, la ville loquée. C'est oui. Une ville en loque, c'est ça.
Exactement.
La ville loquée.
Parce que le mot loque existe. La personne est en loque, les loques. Mais le mot loquée, je l'ai créé parce que je voulais quelque chose d'un peu fort pour traduire l'idée que j'avais, après la guerre, Brazzaville était devenue vraiment un désastre. C'était comme une ville qui n'avait plus ses vêtements d'avant, une ville qui n'était plus... On appelait avant Brazzaville la verte. Mais depuis la guerre, Brazzaville n'est plus redevenue Brazzaville la verte comme elle était avant, et même les arbres ont été coupés et tout. Donc du coup, Brazzaville n'avait plus ses habits qu'elle portait avant. Elle était devenue comme une personne en loque. Mm-hmm. Ouais, après la guerre, on a tout détruit, même les humains n'étaient plus les mêmes.
Mais c'est pas c'est beau avoir une ville après la guerre. Hein.
Exactement, c'est pas beau à voir. C'est là que j'ai eu l'idée de dire, ben, pourquoi pas une ville, la ville loquée.
Vous nous lisez ce petit passage.
La majorité des visages ont des rides. Tous les efforts ne rencontrent que des terres arides. Les vies ressemblent à des ravins. On a l'impression d'avoir fait fuir le regard divin. Pour la misère, c'est le boom.
Si jeunesse pouvait.
Notre correspondante à Lomé, Kaïlosson, a rencontré des élèves de l'école EFATA pour mieux connaître le handicap des enfants atteints, notamment de surdité.
Pour les élèves inscrits à la maternelle, le premier contact peut être difficile.
Au début, c'est d'abord l'apprendre à saluer. Tu t'assois et tu fais le signe. Et au fur et à mesure, ils te voient là et ils s'adaptent. C'est quand ils maîtrisent toutes ces choses-là qu'on va même dans le vif du sujet pour le travail de classe.
Et FATA qui dispense des cours en langue des signes et n'accueille que les enfants sourds, malentendants et muets, attire de plus en plus de parents d'élèves.
Par le passé, je l'avais inscrit dans une école privée, mais je n'ai pas eu un bon résultat. C'est pour cela que l'année passée, j'ai commencé ici. Il y a un grand changement dans la vie de ma fille. Et la conversation est là. Je suis très satisfait.
L'établissement accueille une centaine d'élèves. Les cours dispensés sont les mêmes que dans les écoles dites normales. Pourtant, ces élèves n'ont pas les mêmes opportunités ni les mêmes débouchés à la fin de leur curriculum. Après l'obtention du certificat d'études du premier degré CEPD, ces enfants en situation d'handicap auditif n'ont pas de collège spécialisé. En 2018, aucun élève de l'école EFATA des sourds n'a décroché le diplôme CEPD. Est-ce le manque ou l'absence d'établissements scolaires spécialisés qui ne motive pas réellement les élèves ou une baisse du niveau d'encadrement? Les responsables de l'établissement comptent revoir leur méthode cette année pour de meilleurs résultats. Kaïlosson pour VOA Afrique, Lomé.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Nanit, dans votre ouvrage, vous vous êtes également attaquée au tribalisme, à l'ethnocentrisme. Et vous avez écrit ce poème qui s'appelle « Les pleurs de Juvène », qui est votre nièce. Vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, malheureusement, le Congo-Brazzaville est un pays où le tribalisme est en train de battre son fort. Et donc, ma nièce, elle est née d'un père qui n'est pas de la même région que ma sœur. Et depuis sa naissance, franchement, elle est un peu déséquilibrée parce qu'elle est née au moment où le tribalisme était vraiment en train de gagner du terrain. Et ça fait qu'elle-même, elle ne savait pas où elle devait vivre, à quelle famille elle appartenait. Parce que quand elle était chez sa mère, on parlait toujours d'elle comme étant quelqu'un qui appartenait à son père, donc qui était de l'ethnie de son père. Et quand elle était chez son père, on parlait d'elle comme étant de quelqu'un qui appartenait à sa mère, qui était de l'ethnie de sa mère. Alors qu'il y a des années avant, on connaissait pas ces réalités au Congo-Brazzaville. Mmh. Donc elle en a beaucoup souffert, ça fait qu'elle n'a même pas suivi une bonne scolarité. Et puis ça l'a perturbée, quoi.
Le sentiment de ne pas avoir de place nulle part.
Oui, psychologiquement, elle a été très affectée par ça.
Vous pouvez lire le petit passage,
justement.
Oui, donc
c'est pourquoi je lui ai consacré ce poème qui dit « Accusé d'être un hybride ethnique, je suis chassé de ci, de là, sans éthique. Où aller, où apparaître, l'histoire a divisé mon être, me contraint de haïr, de fuir, de chercher une identité hybride, médiane, aride, entre le nord et l'est, entre le sud et l'ouest. Où la trouver? Vous me la refusez. Du nord est ma mère, du sud est mon père. De l'est est ma famille maternelle, de l'ouest est ma famille maternelle. Entre elles, il n'y a plus d'entente fraternelle. On me met au milieu, au centre, au lieu où il y a presque un désert. »
Un autre extrait de ce poème, Les pleurs de Juvène, dit « Pourquoi m'embrigader dans des guerres que je ne comprends guère? Pourquoi m'appliquer dans des querelles auxquelles n'adhère pas ma cervelle? Mes pleurs n'ont plus d'écho, je suis une multiethnique sans alter ego, un crime contre l'humanité dont je suis accusée avec gravité. » C'est très fort, c'est vraiment très fort. Merci pour ce poème, vraiment.
De rien.
Vous avez aussi parlé de votre frère, que vous avez perdu, la perte d'un être cher. Et le titre de ce poème, c'est « L'aigle empoisonné ».
Oui, en fait, c'est d'autant plus fort que mon frère, bon, il n'est pas mort de mort naturelle, mais il a été tué juste pendant la guerre parce qu'il n'appartenait pas à un certain milieu ou à une certaine ethnie. En fait, disons ma mère, parce que c'est ma mère qui est du Congo-Brazzaville. Donc, parce que lui, il n'appartenait pas à une certaine ethnie, c'est la seule raison pour laquelle
donc
il a été tué.
Donc, on est encore dans le tribalisme.
Effectivement. Donc, c'est ça qui fait que sa mort est un peu plus difficile à supporter, quoi.
Est-ce que ça fait du bien quand même d'écrire, Nanit?
Si, moi, je trouve que ça m'a beaucoup soulagée parce que avant que je n'écrive, je ne pourrais pas parler de la mort de mon frère. Je n'en parlais jamais, jamais, jamais. C'est comme si j'expiais quelque chose, je sortais une... Enfin, la douleur est toujours là parce que la douleur ne part jamais quand on a perdu quelqu'un. C'est un vide qui est là, qui ne sera jamais comblé, donc la douleur, elle est permanente. Mais au moins, on a une certaine façon, on a une certaine stratégie de supporter cette douleur, de vivre avec en se disant, bon, il faut continuer avec la vie. Et moi, en le faisant, je voulais un peu perpétrer sa mémoire pour que je n'oublie jamais. Et toutes les personnes qui liront sauront qu'il est arrivé quelque chose à un innocent.
Vous parlez aussi de votre mère, un très beau poème sur votre maman. Je vais en lire un passage. « Pour moi, tu vivais dans une sorte de résignation et d'abstinence. Tu t'éreintais des journées entières, tu blanchissais des nuits, refusant des prérogatives propres à la jeunesse, faisant presque de ta vie un amas de sacrifices, alors que moi je sous-estimais la dose de courage qu'il te fallait pour tes renoncements. » C'est beau.
Moi, oui. En fait, l'histoire, c'est que ma mère s'est séparée de mon père pendant que j'étais encore très jeune. Donc, c'est ma mère qui m'a élevée toute seule, en fait, disons mes frères et moi, qui nous a élevés toute seule, mais on n'a jamais manqué de rien. Mais quand on est enfant, on n'imagine pas tous les sacrifices que les parents doivent, auxquels les parents doivent consentir pour vous donner le minimum ou le maximum.
C'est un bel hommage aussi. C'est un bel hommage aux femmes. D'ailleurs, vous avez un poème dans votre livre sur l'égalité des genres.
SOS Condition Féminine, ouais. Je crois, oui. J'avais des amis à Brazzaville, notamment une malienne qui m'avait beaucoup marquée, m'avait raconté son histoire. Comment est-ce qu'on l'avait, vraiment traité. En fait, on l'a traité comme une chose. D'ailleurs, je suis même en train de faire un roman sur ça, la façon dont il a été traité. Et c'est beaucoup plus les femmes qui vivent dans des pays, disons musulmanes. Ce sont ce genre d'amis que j'avais et qui m'avaient raconté leur vie. Ça m'avait tellement fait de la peine que j'avais décidé de leur écrire, de leur consacrer un poème que j'avais intitulé SOS Conditions Féminines.
Alors les projets, là, vous allez continuer à écrire?
Bien sûr, en fait, j'ai déjà, parce que là, c'était le tome 1, j'ai déjà le tome 2, mais cette fois, bon, j'ai trouvé un nouvel éditeur, mais qui m'a demandé d'aller à Paris pour qu'on discute des conditions d'édition et tout.
Aussi, la condition féminine, l'Afrique
L'Afrique, mais aussi les États-Unis, parce que même déjà si je pense qu'il y a un poème que j'ai consacré aux Noirs américains, parce que quand je suis arrivée, c'est pour moi c'était un grand choc. Je voulais savoir ce qu'étaient devenus les Noirs qu'on avait ramenés d'Afrique. C'est pas les Noirs américains que je vois aujourd'hui, mais leurs aïeux, quelles sont les traces qu'ils avaient laissées en dehors de ces enfants. Ça, pour moi, ça a été un très grand choc. Donc j'ai écrit beaucoup de poèmes aussi sur les Noirs américains.
On vous souhaite vraiment tout le meilleur dans cette aventure.
Merci beaucoup,
de l'écriture, Nanit. C'était vraiment un plaisir de vous avoir. Je suis certaine que c'était un grand plaisir pour nos auditrices, nos auditeurs, qu'on remercie beaucoup pour toujours être fidèles à l'émission Le Monde au Féminin. Un grand merci à Sims Loumami et à Wagner Robert à la production. À très bientôt, au revoir.
Arrête.